qui se cache derrière le micro de vos podcasts favoris, tech, business, lifestyle, culture, sport, gaming ou news. C'est exactement ce que nous découvrons dans Offcast, le off du podcast français et francophone. Nous partons 2 à 4 fois par mois dans les coulisses du podcast français à la rencontre des acteurs de cet écosystème véritablement effervescent. Dans chaque épisode d'Offcast, vous découvrirez le profil, la personnalité et la passion du ou de la host, mais aussi son parcours, ce qui l'a amené à créer son podcast, comment il ou elle trouve ses sujets, ses invités, sa vision du développement d'une communauté autour de ce format et ses conseils pour découvrir, comprendre et adopter l'esprit podcast. Je suis Raphaël Grieco, grand fan de podcast, et je suis également à l'origine de l'initiative Podcast Makers qui réalise les podcasts Offcast. Et oui, Podcast Makers, c'est la première communauté française 100% indépendante de podcasteurs passionnés. Si toi aussi tu es host ou si tu produis un podcast existant, rejoins cette toute première communauté réservée aux hosts et éditeurs de podcasts sur www.podcasts.com. Avant d'entamer ce nouvel épisode, un dernier mot sur le format d'Offcast. Offcast est résolument un podcast différent et en perpétuel renouveau. Pour chaque épisode, un ou une nouvelle host, membre de la communauté Podcast Makers, viendra à la rencontre d'un ou d'une invitée podcasteur, membre également de Podcast Makers. Et maintenant, sans plus tarder, place à ce nouvel épisode d'Offcast.
Hello tout le monde, welcome pour ce nouvel épisode de Offcast. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir l'univers fantastique du sport connecté, du triathlon, du Ironman. Et si vous êtes un habitué de Offcast, vous l'aurez compris, on va décrypter qui se cache derrière l'un de vos podcast hosts préférés. Il s'agit de Hermano Di Micheli, des podcasts Dans les vestiaires et Nakan. Il nous partagera son amour du sport, les difficultés rencontrées par les grands noms du sport pour financer leurs rêves et assurer leur résilience, et sa secret sauce pour animer 2 émissions de podcast en même temps tout en étant un salarié à côté et surtout en demeurant un super papa de 4 enfants. Bonne écoute!
Un, deux, trois, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Guy Berthold du podcast Des Brouillards. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Offcast, comme dirait Raph, qui se cache derrière vos micros de podcast. Je suis super ravi de recevoir aujourd'hui Hermano Di Micheli. Tu me dis si j'ai mal prononcé ton nom?
Ouais, c'est Di Micheli.
A.K.A. Iron Man No Looks.
C'est ça.
C'est d'où te vient ce sobriquet?
Bah écoute, mon prénom c'est Hermano. Hermano c'est pas un surnom, c'est vraiment mon prénom. Et quand j'ai commencé dans le triathlon, si tu veux, le graal de tout triathlète qui se respecte, c'est d'aller un jour à l'Ironman d'Hawaï. L'Ironman d'Hawaï, c'est les championnats du monde de triathlon longue distance. Donc Ironman, Hermano. Déjà, il y avait un pont, tu vois, Ironmano. Et au début, le surnom que j'avais pris, c'était Ironmano. Et puis, il y a 13 ans, je suis arrivé au Luxembourg et je me suis dit que ça faisait pas mal de rajouter la petite particule luxe, donc d'où le Ironmano luxe.
Trop ouf. Vous l'aurez deviné, aujourd'hui, on va parler Ironman, on va parler sport connecté et bien sûr, on va parler de podcast. Pour commencer, Hermano, je te propose de te présenter de façon succincte.
Alors succincte, ça veut dire aussi ce que je fais dans le podcast ou juste rapidement qui je suis?
Bon allez, c'est pour découvrir qui se cache derrière le micro, lâche comme ça sort quoi, on veut savoir aussi les off.
Ok, alors écoute, Hermano Di Micheli, comme tu l'as dit, 40 ans tout fraîchement depuis quelques mois, papa de 4 enfants, 4 enfants, on a fait large avec mon épouse hein, parce que le premier a 22, notre fille a 18. Le deuxième garçon a 11 ans et puis le tout dernier, il est né il y a 1 mois et 12 jours.
L'écart entre le premier et le dernier.
C'est ça. Écoute, nous, on est comme ça. On aime bien profiter de la vie, on aime bien transmettre. Et puis, le premier, il est arrivé un peu tôt. La deuxième, c'était un choix. Le troisième aussi. Puis le quatrième, c'est arrivé. On s'est dit, allez, on remet ça. C'est parti. Et puis, en dehors de ça, Je travaille dans une banque chez Société Générale à Luxembourg depuis, enfin, je suis à Luxembourg depuis 13 ans maintenant, mais ça fait depuis plus longtemps que ça que je suis dans le groupe Société Générale. Et, et puis, en dehors du boulot et de la famille, qui sont déjà deux gros blocs, il y a un troisième bloc, c'est le sport, mais on en parlera aussi. Et puis, le quatrième gros bloc, bah, c'est les podcasts. Je suis animateur, producteur et cofondateur du podcast de Nakan, où on parle justement de sport d'endurance, sport connecté et principalement triathlon, trail, et vélo, natation. Et puis j'ai monté aussi il y a un peu moins d'un an le podcast Dans les vestiaires, où je me concentre sur les mécanismes que mettent en place les sportives et les sportifs de haut niveau pour assurer leur financement et leur résilience tout au long de leur carrière. Voilà, en quelques mots, succinctement, c'est moi.
Yes, Dans les vestiaires que moi j'ai beaucoup écouté, j'ai adoré notamment l'épisode avec j'ai oublié son nom, le mec qui a fait qui est qualifié déjà pour les Vendée Globe, je crois qu'il est en train de se préparer.
Maxime Sorel.
Ouais. Ouais, c'était ouf, j'ai appris tellement de choses, je savais pas qu'il y avait autant de ce sont des surhommes quoi, ce sont pas des vraies personnes, parce que là ils sont exposés comme ça à un danger. Pendant près de 3 mois, il peut se passer tout et n'importe quoi.
Ouais.
J'ai grave adoré cet épisode. J'ai aussi beaucoup adoré l'épisode avec la jeune, celle qui fait les c'est quoi, c'est Quadra ou comment ça s'appelle? C'est un dérivé du karaté.
Je sais plus. Ah oui, le karaté kata, Sandy Scordo.
Les kata, ouais.
Voilà.
Ouais.
Parce que et dans le karaté, t'as plusieurs disciplines et si je ne m'abuse, t'en as d'ailleurs deux qui sont disciplines olympiques. C'est le karaté combat, donc voilà, karaté kid quoi.
Les kata.
On se tape dessus. Et les kata. Les kata, c'est des gestes à reproduire et voilà. Et puis je crois que t'as une troisième discipline qui est olympique dans le karaté, mais j'avoue que ma connaissance du karaté
s'arrête
là. Tu parlais
même de patinage artistique. T'es pas forcément en combat avec quelqu'un, mais c'est t'as ça, quelqu'un qui te note et tu dois faire des trucs répétés, des actions répétées comme ça, mais de façon disciplinée, un petit peu comme l'écosystème du patinage artistique. C'était assez intéressant. J'ai appris de belles choses aussi et j'ai surtout été surpris par c'est la misère, parce que elle doit avoir plus d'une dizaine de médailles. Mais elle vivait en dessous d'un smicard, je crois, à peine, je crois, à la fin, elle devait toucher quelque chose comme 1200. Pourtant, elle représente la France et elle gagne des médailles. Et c'est assez surprenant quand même, cet écosystème.
Bah, tu sais, c'est justement ce qui m'a donné envie de créer ce podcast pour te refaire un petit peu toute l'histoire. C'est que dans la famille de mon épouse, mon épouse est malgache, elle est née à Madagascar, elle a grandi à Madagascar, elle est aussi française par filiation et elle est arrivée en France quand elle avait 18 ans. Et dans sa famille, il y a une personne qui est aussi malgache et aussi française, qui vit en France depuis 20 ans et qui est une très grande athlète qui a été championne de France sur 800 mètres, mais c'était pas le record n'a pas été validé parce qu'à l'époque elle avait pas encore la nationalité française. Elle a été championne de France sur 1500 mètres. Elle a été vice-championne de France sur 3000 steeples. Et puis elle se préparait là pour les JO de Tokyo en distance marathon.
Est-ce que tu me permets de te couper avant de revenir, s'il te plaît? Quand tu dis que le record n'a pas été retenu parce qu'elle n'avait pas encore la nationalité, ben est-ce que le record n'a pas été retenu peut-être pour la nationalité malgache? Parce qu'il y a quand même eu un record. Il faut bien l'attribuer à l'une des nationalités. Et j'imagine que si elle n'était pas encore française, elle était au moins malgache. Ou alors, je sais pas si je comprends mal.
Non, en fait, c'est parce qu'elle concourait pour les championnats de France. Donc, dans le cadre des championnats de France, elle n'a pas pu être. Alors, c'est pas le record, c'est que elle n'a pas pu être reconnue championne de France, tout simplement parce qu'elle n'avait pas la nationalité française. Et comme elle concourait dans les championnats de France, bah c'est pour ça que avec Madagascar, ça passait pas non plus.
Pouah.
Et du coup, voilà. Mm-hmm. Et là, en 2019-2020, elle jouait sa qualif pour le marathon à Tokyo. Sauf que, bah, comme elle n'était pas dans le cadre de l'équipe de France, bah, c'est parfois un peu compliqué. Mm-hmm. Et puis, quand il y a des bisbilles avec les entraîneurs ou la façon de voir, bah, avec la fédération, ça passe pas toujours bien. Donc, comme elle n'était pas dans le cadre, elle bénéficiait d'aucun financement ni d'aucune aide de la part de la fédération. Et pour jouer les qualifs, et bah, il fallait se déplacer en France, à l'étranger, faire les minima internationaux et les minima français pour pouvoir intégrer le groupe France au JO, au marathon. Et du coup, c'était pour elle, c'était vraiment une galère pas possible pour trouver des financements. D'ailleurs, on a lancé un podcast avec son mari qui est aussi son entraîneur. On a fait quelques épisodes un petit peu pour raconter toute la galère qu'elle vivait. Et c'est ça qui m'a donné cette idée et cette envie de lancer le podcast Dans les vestiaires, parce que je savais à travers elle et à travers d'autres rencontres que j'avais déjà faites que la vie de sportif de haut niveau, c'est pas du tout comme beaucoup de gens peuvent le croire, les mecs qui mettent les pieds au bord de l'eau ou dans la piscine et puis les billets, les dollars qui tombent et puis t'as juste à faire 2-3 compétitions dans l'année et tu vas voir le président, tu prends ta médaille et tu recommences, quoi. Ça, c'est... Bon, alors déjà, pour être sportif ou sportif de haut niveau, ça demande un travail énormissime de tous les jours, une résilience, une abnégation la plus complète possible. Mais en plus, il faut jouer avec, aller chercher les sponsors, trouver les bons sponsors, trouver des financements, se battre avec les fédérations. Et c'est un peu le but de mon podcast, de montrer que la vie de sportif de haut niveau et d'artiste et d'aventurier, c'est dur.
Yes, moi je recommande fortement cet épisode là et on parle là en fait de c'est il demande pas des millions de footballeurs, hein, c'est généralement dans ce qu'elle racontait, c'était des financements plutôt basiques pour aller représenter la France, ne serait-ce pour payer les transports, vu que ce sont des voyages. Aujourd'hui c'est peut-être à Tokyo, demain c'est complètement à l'autre bout du globe, peut-être dans le continent américain, au Canada. C'était juste ça, et on parle des sommes, je sais pas, ça peut être entre 300-500 euros. C'est vraiment incroyable, et de se dire que ces sportifs de ce niveau-là, ils vivent dans un autre monde comparé à des sports qui sont beaucoup plus reconnus comme le foot, le basket ou,
le tennis,
ouais. C'était assez intéressant.
J'avais eu aussi à mon micro Cédric Fleurton, donc grand triathlète, aussi bien sur court que sur longue distance, et il nous expliquait que, au début de sa carrière, quand il commençait vraiment déjà à performer, à faire des bons résultats, la Fédé lui payait tous les déplacements, mais tout le reste, c'était pour lui. Et malgré les sponsors qu'il arrivait à trouver, il vivait avec 600 euros par mois. Donc on lui filait 600 balles pour se payer son appart, pour payer son matos, enfin le matos que les sponsors lui donnaient pas, et pour bouffer, quoi.
Mais est-ce que ça se sait, ça, Emarno?
C'est pour ça. C'est parce que les gens croient tout. Particulièrement en France, les gens croient certainement que les sportifs, c'est Teddy Riner, c'est Tony Parker, c'est des footballeurs, c'est des mecs qui roulent sur l'or, mais c'est pas ça la grande majorité des sportifs de haut niveau. Ça, c'est 1% des sportifs.
Incroyable. Là, on a plongé dans le vif du sujet. Je propose qu'on revienne derrière et qu'on apprenne un petit peu plus à te connaître, toi, à comprendre ton parcours. T'as dit en début d'émission que t'es arrivé au Luxembourg à l'âge de 13 ans, c'est ça?
Non, ça fait 13 ans. Ça fait 13 ans.
Ah, ça fait 13 ans que tu. Ouais. Ok, ok. Et,
je suis arrivé à 27 ans.
À 27 ans, ok. Donc, tu peux nous expliquer un petit peu déjà. T'es parisien. T'es originaire de quel?
Alors moi je suis attention, hein. Moi je suis un citoyen du monde, comme j'aime à me définir. Moi j'ai grandi en Normandie, à Rouen. Mmh. J'ai un papa qui est sicilien, une maman qui est normande. Et puis à 20 ans, quand j'ai voulu découvrir un peu le monde, et avec celle qui allait devenir mon épouse, on s'est installé à Paris. On y est resté pendant quelques années. Moi entre temps, à 21 ans, je suis parti 6 mois travailler en Italie, justement pour Société Générale. J'ai laissé ma femme et notre premier enfant à la maison à Paris, et moi je suis parti 6 mois en Italie. Après, retour sur Paris, vadrouille un peu entre Paris et la Normandie, et avant d'arriver au Luxembourg il y a 13 ans, en 2007.
Ok, et cette passion pour le sport, est-ce que tu peux situer ça dans le temps? Est-ce que c'est quelque chose qui... Est-ce que ça a toujours été autour de toi? J'imagine le Ironman, ça doit être un peu plus tard. Mais globalement, le sport en général, est-ce que c'est quelque chose qui a toujours fait partie de ta jeunesse, du Hermano de 20 ans, 18 ans, 20 ans?
Ouais, écoute, ça a toujours fait partie de ma vie. Alors, c'est marrant que tu me poses cette question, parce que j'étais passé déjà dans le podcast de Bart et Barthélémy Fent qui anime le podcast Extraterrien.
Extraterrien.
Et la première question qu'il pose à ses invités, c'est toujours quel est ton premier souvenir de sport? Donc déjà j'avais réfléchi un peu à ça.
C'est dur ça. Mais... c'est
ouais,
dur.
Écoute, c'est pas si dur que ça, je trouve. Par contre, c'est vrai que est-ce que le sport a toujours fait partie de ta vie? Ouais, le sport a toujours fait partie de ma vie. J'ai jamais été un grand pratiquant de sport avant d'avoir 18-20 ans justement, mais d'aussi loin que je me souvienne, mon père faisait du judo quand il était en Sicile. Voilà, il était sicilien, donc il a vécu au bord de l'eau. Il y passait, quand il était pas à l'école, il passait ses journées à faire de l'apnée, à plonger, etc. Et c'est des histoires qu'il me racontait quand j'étais gamin et dont je me souviens encore. Je me souviens aussi que quand on allait en vacances, il m'emmenait plonger en apnée. Et voilà, tout ça c'est des souvenirs que je garde, qui sont déjà liés quelque part un petit peu au sport. Mais surtout, ce que mon père m'a appris, c'est que le sport véhicule des valeurs. Et c'est ces valeurs qui, c'est aussi ces valeurs fondatrices qu'il m'a transmises dans notre famille et que j'essaie de transmettre aussi à mes enfants. L'abnégation de soi, l'esprit d'équipe, le respect de l'autre, le respect des différences, le respect du plus fort et le respect du plus faible, tout ce genre de choses. Et donc, c'est pour ça que je te dis que, ouais, je pense que le sport, quelque part, a toujours fait partie de ma vie depuis que je suis né, depuis mon plus jeune âge. J'ai fait du judo pendant 10 ans, de 5 à 15 ans à peu près. Je dois bien avouer que c'est un sport que j'ai beaucoup respecté et apprécié de par aussi les valeurs que ça transmet, de par ces valeurs des sports de combat. Et puis c'est un sport japonais qui est vraiment fondé sur les valeurs du respect de l'autre, le respect du combat, etc. Et puis quand j'ai eu 14-15 ans, j'ai commencé à faire un petit peu de vélo comme ça, à courir un peu, mais tu vois, sans basculer vraiment dans ce sport. Et pour tout te raconter, tu vois, quand j'avais 16 ans, avec un copain, on a été à la piscine, et en sortant de la piscine, on a vu une pancarte pour une manifestation qui s'appelait le triathlon de Rouen. Et il me dit, oh, t'as vu, ça a l'air cool, ça, triathlon, tu sais ce que c'est? Non, je sais pas. Je rappelle qu'on est en 96, Internet n'existait pas encore. Encore moins les iPhones ou autres. Donc, le OK Google, qu'est-ce que le triathlon? Oubliez les jeunes. Et, ça n'existait
et que
pas.
Et moi, j'avais combien? 4 ans à l'époque. Donc, d'accord. Contextualise bien les choses quand même.
et du coup, non, je connais pas le triathlon. Puis l'affiche était un petit peu floue, si tu vois. Tu voyais un espèce de dessin d'un mec qui était à la fois mélangé avec du vélo, de la natation, de la course à pied. Tu comprenais pas trop. Donc, qu'est-ce qu'on faisait à l'époque? On prenait la mer, on cherchait triathlon, club de triathlon Armand, ok. Tu prenais le téléphone de la maison, c'était le téléphone où tu tournais les touches, tout ça, vous connaissiez pas les petits jeunes. Et puis, j'ai appelé le club, j'ai dit c'est quoi le triathlon et c'est quoi l'épreuve qu'il y aura telle date. Et on m'a expliqué que c'était un enchaînement de natation, de vélo et de course à pied, on m'a dit les distances. J'ai regardé le calendrier, j'avais 16 ans, on était à 3 mois de l'épreuve, j'ai dit allez bingo. J'ai rappelé mon pote, j'ai dit allez on le fait. Et c'est comme ça que j'ai découvert le triathlon et que j'ai chopé le virus et que depuis je l'ai quasiment jamais lâché.
Mais ce truc là, tu l'as fait d'un coup, tu t'es préparé, tu t'es allé jusqu'au bout?
Ouais, j'ai été jusqu'au bout. Alors je me souviens, les distances c'était 750 mètres de natation, donc j'avais une piscine pas très loin de chez moi, donc j'allais nager une fois ou deux par semaine histoire d'apprendre à nager parce que j'avais jamais fait partie d'un club de natation. Puis il y avait 20 km de vélo. Alors j'avais été voir ma mère à ce moment-là, puis je lui avais dit maman, regarde, je veux faire un truc qui s'appelle le triathlon, mais j'ai pas de vélo. Donc, à l'époque, on avait fait les brocantes, on avait chopé un vieux vélo en acier, et puis c'est comme ça que j'ai commencé à faire du vélo. Puis du coup, comme je voulais m'entraîner, j'allais à la piscine en vélo. Voilà. Et puis la course à pied, c'est quand même l'un des sports les plus simples à gérer. C'est-à-dire j'ai acheté une paire de baskets et puis j'ai commencé à apprendre à courir. Et il y avait 5 km de course à pied. Donc le jour de la compétition, je suis arrivé en maillot de bain parce qu'à l'époque, ça se faisait en maillot de bain avec une espèce de t-shirt. Et puis je me suis mis dans l'eau. J'ai galéré pour arriver au bout des 750 mètres, mais je l'ai fait. Et puis après, je suis monté sur mon vélo. Là, j'ai pris un pied, mais énorme, même si je savais pas vraiment faire du vélo, mais j'ai adoré ça. Et puis après, j'ai posé le vélo, j'ai enchaîné sur les 5 km de course à pied. Et quand j'ai passé la ligne, j'ai regardé ma montre, j'ai dit, merde, j'en ai chié, mais c'est bon, je re-signe. En septembre, je vais au club et c'est parti.
Et ben, ça se voit que tu es un vrai passionné, mais pour... un néophyte qui t'écoute mais qui n'arrive pas vraiment à bien visualiser le truc, est-ce que tu peux nous parler de la réalité, c'est-à-dire de sortir de l'eau avec des jambes qui pèsent et de monter sur un vélo? C'est quoi la sensation?
écoute, c'est vrai
quand tu parles, on croit que c'est facile, que c'est classique et tout, mais normalement quand tu sors de l'eau, c'est à peine si tu réussis à soulever les bras ou à soulever tes propres pieds, quoi. Et là, tu dois enchaîner avec le vélo et puis accélérer, mettre le gaz.
Ouais, bah écoute, c'est justement ça la difficulté du triathlon, c'est que le triathlon c'est trois sports qu'on enchaîne. Alors enchaîner, ça veut dire vraiment, comme tu l'as dit, hein, tu sors de l'eau, tu montes sur le vélo. Donc c'est pas tu sors de l'eau tranquille, tu prends un café, t'attends une demi-heure, tu fais une sieste et tu repars. Non, t'enchaînes. Tu montes dessus direct. Et quand, pareil, quand t'arrives avec le vélo, bah tu poses le vélo et t'enchaînes sur la course à pied. Donc c'est vraiment la difficulté du triathlon, c'est que ce sont trois sports que tu vas enchaîner et donc il va falloir apprendre à les gérer ces trois sports. Il va falloir apprendre à gérer la puissance que tu mets dans chacune des disciplines pour ne pas te retrouver cramé après la première étape ou après la deuxième ou au milieu de la troisième. Et puis il va falloir apprendre à gérer aussi ces fameuses transitions. Quand tu finis de nager et que tu dois monter sur le vélo, quand tu finis le vélo et que tu dois monter sur la course à pied. Et je te raconte pas quand tes parents, en plus, quand t'as fini la course à pied, que tu dois aller embrasser la femme et les enfants. mais si tu veux, c'est la difficulté de ce sport-là. Et donc, comment ça se travaille? Déjà, tu travailles chaque sport individuellement, un petit peu chaque jour, ou quand t'as la chance d'être semi-pro ou pro ou étudiant et que tu peux faire deux ou trois fois du sport dans la journée, tu travailles les trois dans la même journée. Et puis, tu travailles les transitions aussi. Donc, tu vois, par exemple, pour les triathlons découvertes ou les sprints où t'as 750 mètres de natation, et 20 km de vélo derrière, et tu vas t'entraîner à faire des séances de natation qui font 1500, 2000, 3000 mètres, et puis à simuler que tu sors très vite de l'eau, et puis tu vas monter sur ton vélo. Même si c'est pas forcément facile de s'entraîner à enchaîner natation et vélo parce que les piscines c'est compliqué, tu peux pas mettre un vélo au bord de la piscine, enfin à moins que t'aies une piscine chez toi, mais ça me paraît compliqué. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas apprendre à faire 750 mètres dans ton bassin, dans le bassin de la piscine, et puis à sortir de la piscine, à sortir du bassin tout de suite, à faire, je sais pas, à marcher 300 mètres, à simuler que tu vas faire un tour de vélo, et puis après tu reviens au calme, puis tu retournes dans la piscine et puis tu recommences l'exercice comme ça. Voilà. C'est des choses comme ça. Et pareil, en course à pied, là, c'est plus facile de travailler la transition. Tu montes sur ton vélo, tu fais 5 km de vélo, et puis après, tu poses ton vélo contre un arbre, puis tu apprends à mettre tes chaussures de course à pied avec, puis tu pars faire 1 km, et puis tu reviens, et puis tu recommences, et puis tu fais ça des milliers de fois.
Et moi, je profite justement de ça pour te poser deux questions un petit peu complémentaires. Dans la première, est-ce que les compètes, elles sont ouvertes à tout le monde? Et peut-être avant de répondre à cette question-là, tu peux un petit peu éclaircir le point selon lequel le Ironman, c'est une compétition ou alors c'est une autre appellation du triathlon. Je sais pas trop c'est quoi la différence et j'imagine peut-être une partie des auditeurs.
Ouais, alors Ironman, rien à voir avec le comics. Hein. Écoute, je vais en profiter, je vais faire un peu de teasing. Si vous voulez en savoir plus, vous allez sur podcast.nakan.ch/40-46. On a fait justement un épisode avec Greg, avec mon cofondateur du podcast, où on a parlé un petit peu de tout ça. Mais je vais répondre à ta question. Allez. En fait, le triathlon est né en 1978, 78 pour les Belges, les Luxembourgeois ou les Suisses ou les Québécois. D'un défi que se fixaient des militaires américains qui étaient postés à la base américaine de Waikiki à Hawaï. En fait, c'était trois copains militaires qui étaient au bar. Je te la fais là, je te fais l'histoire. Hein.
Toujours dans un bar, ça te surprend pas ça? C'est toujours dans un bar.
Moi, ça me surprend pas. Tu vois, c'est donc trois copains qui étaient en train de boire un coup dans un bar, bien arrosé. Il y avait un nageur, il y avait un cycliste et il y avait un coureur. Et les mecs au bout d'un moment se disputaient pour savoir qui était le gars le plus fort, parce que le nageur il disait non c'est moi le plus fort parce que moi je fais la course, alors il y avait une course à Hawaï, une course de natation en eau libre qui rejoignait une île à l'autre, je crois qui faisait la distance actuelle de l'Ironman, c'est-à-dire 3,8 km, et qui disait moi c'est moi le plus fort. Il y avait le cycliste qui faisait régulièrement la course vélo autour d'Hawaï, qui faisait 185 km, qui disait non c'est moi le boss. Et puis en fait t'avais le coureur à la fin qui disait attends les mecs, moi je fais le marathon d'Honolulu 42,2 km et c'est moi le bonhomme, c'est moi le boss. Et puis les trois mecs après quelques verres ils se sont dit ok, tu sais quoi, si tu veux savoir qui c'est le plus fort, on a qu'à faire une épreuve où on regroupe les trois disciplines et tu vas voir, on va voir qui c'est le plus fort. Voilà. Ça, c'est l'histoire originelle du triathlon.
Ça ressemble à une grosse blague, franchement.
Je te jure. Et qui est né sur la distance de l'Ironman. Donc, pour la refaire, hein, c'est 3,8 de natation, 180 de vélo et un marathon, donc 42,195 à la fin. Ça, c'est l'histoire originelle du triathlon. Donc, ça a pris très vite. Au bout de la troisième ou la quatrième année, les gars, c'était plus juste trois copains qui partaient comme des fous, mais c'était devenu une vraie épreuve. Ils ont monté une fédération qui s'appelait World Triathlon Company, WTC. En même temps, il y a eu la Fédération internationale de triathlon qui s'est montée. Il y a toujours eu un peu des bisbilles. Mais en gros, dans le monde, t'as deux fédérations de triathlon. La fédération Ironman, qui combat toujours sur les mêmes distances, 3,8, 180 et 42, où en mode américain, c'est 2,4 miles, 112 miles de natation et 26,2 miles de course à pied. Et la fédération internationale de triathlon, qui, elle, propose des distances allant justement de distances super courtes, alors je sais pas, 300 mètres de natation, 10 de vélo et 2 de course à pied, jusqu'aux distances les plus longues, comme l'Ironman. On a même, enfin, la Fédération internationale de triathlon a même réussi à obtenir que le triathlon soit un sport olympique. Et là, on concourt sur une distance un peu plus courte qui est de 1,5 en natation, 40 en vélo et 10 en course à pied. Voilà, tu sais tout.
Yes. et c'est quelque chose qui est ouvert à tout le monde. Je veux dire, pour les compètes, est-ce que c'est un petit peu comme. Les gens du karaté où il faut monter comme ça, déjà prouver en région et puis monter au fur et à mesure pour pouvoir se préqualifier et concourir aller dans des compétitions beaucoup plus internationales.
Alors c'est ouvert à tout le monde. Pendant pas mal d'années, le triathlon Ironman était réservé un petit peu aux gens qui avaient déjà fait leur preuve sur triathlon et tu pouvais pas t'inscrire comme ça.
Je sais pas si ma question elle est claire. Hein. Je vois ça un petit peu comme le marathon de New York ou tu vois.
Ouais, mais en fait c'est effectivement ouvert à tout le monde. Après, dans les deux fédérations, t'as les amateurs, donc les gens qui ont juste une licence loisir ou compétition, et puis t'as les professionnels qui eux ont une licence professionnelle qui leur permet de voyager un peu partout, puis surtout de prendre part aux courses dites élites. Ce sont pas les mêmes courses que les amateurs parce que ça va plus vite, parce que c'est sur des circuits plus courts, parce que c'est médiatisé là où les courses amateurs elles le sont pas. Voilà quoi. Mais ce qui est beau à voir, c'est que sur un Ironman, par exemple, tout le monde part en même temps. Alors maintenant, t'as tellement de monde que t'as des vagues de départ, mais en gros, à un moment donné, tout le monde va se retrouver sur le parcours en même temps. Que ce soit l'amateur, que ce soit le petit vieux, parce qu'il y a des mecs de même 99 ans qui font de l'Ironman, ou que ce soit le pro. Alors pour te donner un ordre d'idée, il y a des Ironman où il n'y a pas de barrière horaire. Et t'as les champions qui gagnent en 7h30, allez, on va dire en dessous de 8h, et puis t'as les derniers qui restent sur le parcours pendant 20h. Mais à un moment donné, tout le monde va être sur le parcours en même temps. Ça, c'est beau.
Ouais, ça doit être vraiment une expérience. Ça donne envie de tester, quoi, juste de sentir un petit peu la sueur, l'énergie, l'émotion. Trop ouf. Yes, donc pour ceux qui veulent en savoir plus, comme tu l'as dit, c'est un sujet que tu traites complètement au travers de ton podcast, pas que, hein, mais ça, c'est l'un des gros sujets que tu traites avec justement ton cofondateur. On va mettre, je crois que Raph, il va mettre les liens en description d'épisode pour justement aller checker ça. Je te propose qu'on revienne un petit peu avant de rentrer justement dans les deux émissions de podcast que tu animes. Je voulais qu'on voie un petit peu le contexte. Donc, tu as dit que tu bosses pour la Société Générale. Oui. Tu as 4 enfants.
C'est ça.
Tu as une femme qui doit supporter, qui doit te supporter tout le temps lorsque tu peux faire tes compétitions. Comment est-ce que tu réussis à mettre tout ça ensemble? Comment est-ce que déjà moi quand je me vois avec mon entreprise et ne serait-ce que ma famille, ne serait-ce ma mère, je suis obligé de lui envoyer un lien Calendly pour booker un call avec moi quoi une fois par semaine. Comment toi tu fais?
Ah, t'es un tueur. Libertal, je kiffe ça. Je vais faire pareil avec mon père. Je sais pas s'il arrivera à utiliser Calendly, mais je vais faire pareil avec lui. Comment je fais? Bah écoute, j'en sais rien, j'en sais rien moi-même. Non mais en toute honnêteté, on en parlait un peu en off tout à l'heure. Bah j'essaye de prioriser. Déjà, la première chose la plus importante pour moi, c'est la famille. La deuxième, bah c'est le boulot, parce que s'il y a pas de boulot, il y a pas de sous, et s'il y a pas de sous, c'est un peu dur de nourrir la famille. Et puis après, bah il y a tout ce qui vient derrière, il y a le sport, il y a les podcasts, il y a d'autres projets encore que tu vous voyez pas forcément. Mm-hmm. Donc j'essaye de prioriser et puis de faire en sorte qu'il y en ait pour tout le monde. Par exemple au niveau du sport, bon, j'ai pris la décision il y a quelques semaines d'arrêter le triathlon parce que j'ai enchaîné un peu trop de chutes en vélo ces derniers temps et ça me faisait mal.
Je crois que t'as eu des fractures ou je sais pas. J'ai écouté un de tes bins où je crois que soit il y avait une rééduque ou je sais pas où j'ai écouté ça.
Ouais, bah disons qu'il y a 2 ans et demi, je suis tombé en vélo et je me suis fracturé la clavicule. J'ai été obligé de me faire opérer pour poser des plaques, etc. Et à ce moment-là, déjà, on se demandait si ce serait pas bien que je mette des roulettes sur les vélos. Mais le problème, c'est qu'en compétition, c'est pas autorisé. Bon, j'ai arrêté de temps que j'avais ma plaque dans l'épaule, enfin sur la clavicule, pour éviter que si je retombe, je recasse. Quand j'ai pu l'enlever, bah j'ai repris doucement le triathlon. Et puis il y a 6 mois, je suis retombé en vélo. J'ai simplement glissé sur une flaque d'eau. Je me suis fait mal, mais j'ai rien cassé. Et puis, un mois après, je me suis fait renverser en plein entraînement en vélo. Et là, je me suis recassé la clavicule. Donc, mon épouse m'a fait promettre que j'arrêtais le vélo. Donc, voilà. Donc, triathlon sans vélo, ça paraît compliqué. Mais t'inquiète, j'ai trouvé d'autres défis. Donc, du coup, le truc, c'est que pour pouvoir continuer à m'entraîner, j'essaye de placer ça soit tôt le matin, avant que tout le monde à la maison se réveille, soit le midi, rarement le soir, parce que généralement, je suis claqué et puis j'essaye quand même de passer un petit peu de temps avec la famille. Donc voilà, j'essaye de tout faire rentrer dans des cases au moment où ça impacte pas trop la vie de famille ni le boulot. Et puis, en cette phase de Covid, je dois bien avouer que c'est un peu compliqué, parce que avant le Covid... J'habite à 30 bornes du boulot, donc je prends le train le matin, je prends le train le soir, ça me laisse déjà facile 2 fois 30 minutes pour répondre à des mails, pour suivre les to-do list et puis faire quelques trucs à côté. Là maintenant je les ai plus parce que je travaille une semaine sur deux au bureau et l'autre semaine je travaille en télétravail, donc j'ai plus ces temps de transport qui avant étaient des temps morts que je mettais à profit. Donc voilà, faut réussir à trouver des astuces pour caser un petit peu tout ça.
Yes. Donc, on va parler de justement de comment est-ce que tu as lancé les vestiaires.org, le podcast. Le nom, c'est Dans les vestiaires, c'est ça? Ou
ouais, c'est Dans les vestiaires. Ouais.
Dans les vestiaires. Et justement, l'autre podcast avec ton compère, ton co-host, Nakan. Mais avant, est-ce que tu peux nous contextualiser un petit peu l'univers du podcast? Comment tu rentres dans ça? Est-ce que tu sais te rappeler un petit peu comme Bad d'extraterrien t'a posé, mais on ramène ça au podcast. Est-ce que tu sais te rappeler de quand est-ce que t'as écouté ton premier podcast?
Ouais, je m'en souviens très bien. Écoute, c'était un concours de circonstances. Ça faisait quelques temps que j'entendais parler de podcast, de balado, et puis j'avais un copain qui a monté une boîte qui s'appelait My Job Company. Donc c'était une startup qui faisait du recrutement, qui a bossé sur un algorithme de matching dans le recrutement, etc. Et je lui filais un petit coup de main de temps en temps. Et puis un jour, il m'a dit est-ce que tu connais les podcasts? Ouais, j'en ai un peu entendu parler, mais j'ai jamais écouté.
Tu me situes un petit peu l'année, on est en année à peu près?
On y arrive, attends, bouge pas. et puis, il me dit, parce que on a signé un partenariat avec un regroupement de podcasts suisses et on est en 2014 et je suis sûr que ça va exploser, que ça va super bien marcher. Donc, ce serait sympa si t'écoutais puis que tu me disais ce que t'en penses. Donc, on est en janvier 2014 et j'écoute ce podcast où finalement mon pote n'est pas invité mais il est cité dans le fameux podcast qui s'appelait Nip Tech, enfin qui s'appelle toujours Nip Tech d'ailleurs, et qui décryptait un petit peu l'actualité, les techs, etc.
C'était animé par qui? Ça me dit que ça me donne.
Benoît Curdy, Side, Michael Monet et toute la clique.
Je crois. Ils étaient parfois co-host avec Patrick Béja sur le Rendez-vous Tech.
En fait, ils avaient monté ensemble Naotech, je crois. Et Naotech, c'était un regroupement de podcasteurs tech, entre autres. Et donc, il y avait les podcasts de Patrick Béja, parce qu'il n'y en a pas qu'un seul. Il y avait le podcast Nip Tech et puis quelques autres podcasts. Qui
Rendez-vous Tech, Rendez-vous Jeux.
C'est ça, exactement.
Les trucs sur Apple, c'est... Mais je dois dire que c'était quand même. Je pense pas qu'il y avait avant ces personnes-là. Je crois que c'était les pionniers. Hein. Je pense pas qu'il y avait d'autres dans la francophonie en tout cas qui ont lancé, qui savaient même ce que ça voulait dire un podcast à l'époque, parce que Patrick Béja, je pense, ça doit être dans les années 2007. 2008, qu'il a lancé, je vais dire avant même le rendez-vous tech, je crois que ça devait être, j'ai oublié comment ça s'appelle, ça devait être un truc en anglais là. Non, un truc plutôt sur les jeux vidéo, je sais plus trop comment ça s'appelle. Ben là, c'était vraiment les balbutiements. Et lorsqu'il te dit ça, est-ce que toi, c'est quelque chose qui te, est-ce que ça te branche, est-ce que ça te, ou alors pour toi c'est.
Écoute, j'ai écouté ce premier épisode donc où la startup de mon pote était citée. Et puis, c'est un peu comme le triathlon. Et c'est le même mec, hein. C'est le même gars qui m'avait fait découvrir le triathlon.
Non.
Et qui d'ailleurs m'avait dit, on fera la compétition ensemble. Et il m'a planté, je l'ai fait tout seul, le triathlon. Mais du coup,
Il t'a injecté ce truc et puis il t'a lâché, il t'a dit des mecs.
Il me l'a lâché comme ça. Et donc, j'ai écouté cet épisode et je fais, mais c'est génial ce truc. C'est mieux que la musique. Alors, pour recentrer le débat, 2014. Hein, 2014, l'iPhone, ça faisait 7 ans qu'il était sorti, mais c'était quand même pas non plus dans les mains de tout le monde. Hein. On parle de ça il y a 6 ans. Et en 6 ans, en 7 ans, 6, ça évolue beaucoup plus vite.
2014,
que...
encore sur... je crois qu'on est sur le S5. Le S5 à peu près, iPhone. Ouais, à peu près.
Et du coup, j'ai accroché tout de suite sur le podcast. Et j'ai commencé à regarder un petit peu les podcasts de sport et j'en ai trouvé aucun. Et puis, tu as trouvé ça peut-être un peu bizarre, mais je suis un gros timide introverti. Mais des fois, je sors de ma zone de confort. J'ai contacté donc Benoît Curdy, qui est le fondateur de Ninitech. Et je lui ai dit, écoute Benoît, moi j'ai un projet à te présenter. J'ai adoré écouter ton podcast. J'aimerais bien en faire un. Je sais pas comment on fait, mais j'aimerais parler de sport dans un podcast. Est-ce que tu peux m'aider ? Le gars m'a ouvert la porte et il m'a dit, écoute, ça tombe bien, dans la famille Niptech, on voudrait s'agrandir, on voudrait avoir des podcasts un peu sur d'autres sujets. Donc si tu veux créer un podcast de sport, on t'accepte avec grand plaisir et on va t'expliquer comment on fait. 2014, premier épisode du podcast Nip Sport à l'époque, qu'on a tenu pendant un an et demi. Mmh. Après, donc on était deux fondateurs. Après le cofondateur a été pris par autre chose et notamment les championnats du monde d'Ironman à Hawaï. Et au même moment il y a deux gars de la communauté qui nous écoutaient qui trouvaient ça génial et qui ont proposé leur aide et donc ils m'ont rejoint et puis on a voulu virer un peu plus du podcast uniquement vers une plateforme un peu plus globale, podcast, vidéo, blog, etc. Et là on a monté Place au Sport, donc courant 2016 en 2015 et en 2016 ça s'est arrêté parce que les deux autres gars ont changé de boulot, changé d'emplacement, eu des enfants et moi je me voyais pas continuer tout seul. Donc un gros stop en 2016 jusque 2019 où je cherche des infos sur une montre de sport. Je tombe sur le blog nakan.ch que, en toute honnêteté, je ne connaissais absolument pas, mais j'ai adoré ce site où le gars a l'air de faire des revues de matos super bien poussées, très honnêtes. Pas sponsorisé, ou quand c'est sponsorisé il le dit, quand il aime quelque chose il le dit, mais quand il l'aime pas il le dit aussi, beaucoup de plus, de moins, les prix, vraiment un truc bien chiadé, bien fait. Et puis je cherchais une fonctionnalité que je trouvais pas. Je laisse un commentaire sur son site en lui demandant, est-ce que tu sais comment on fait ça? Le gars me répond quelques jours après par mail. On engage la conversation et puis je lui dis, écoute, moi ça fait 3 ans que je fais plus de podcast, mais j'aimerais bien en refaire. J'adore ton site, est-ce que t'as pensé au podcast? Et le gars me répond une demi-heure après en me disant, mais non, mais sérieux, le podcast, j'ai toujours voulu en faire un, mais j'ai jamais su sur quel sujet, comment me lancer, etc. 2 semaines après, on lançait le podcast de Nakan.
Non.
Voilà. Comme voilà ça. Voilà l'histoire du podcast de Nakan. Écoute, une rencontre avec un gars qui est un triathlète, mais qui est passionné par son truc, qui est passionné aussi par l'étude de matos, les stats, etc. Et puis, qui rêvait de faire ça, mais qui se sentait pas de le lancer seul et qui savait pas trop comment on faisait. Maintenant, en 2019-2020, tu crées un podcast avec ton téléphone sans te prendre la tête. On a parlé 2 semaines et puis on a lancé le truc.
C'est vraiment ouf, ça, franchement. Et tu me permets de revenir un petit peu en arrière.
Vas-y, t'as dit
quelque chose de très, très, très intéressant. À l'époque où j'ai oublié le nom, qui est... l'un des co-hosts de Patrick Béja, là, comment il s'appelle, qui t'a accueilli, qui t'a justement, ouais, qui t'ouvre les bras. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu, j'aime bien ça, donner un petit peu de contexte quand aujourd'hui on a plein d'outils no-code qui permettent de lancer rapidement en 2-3 clics son podcast. Mais à cette époque-là, en 2014, même si ça commençait déjà à être un peu plus facile qu'au début quand les Patrick Béja sont lancés en 2007-2008, comment est-ce que ça, pour lancer un podcast, comment est-ce que c'était, quoi les outils, c'était comment est-ce que ça se passait avec les flux RSS et tout le reste?
Bah écoute, c'était quand même pas ce qu'il y a de plus simple, même si c'était, comme tu l'as dit, relativement plus aisé qu'en 2007-2008 ou autre. Et en fait, quand j'ai rejoint la famille Niptech, Benoît avait déjà commencé à rédiger un petit peu des guides, des procédures ou des mémos, des aides, des tutos. D'ailleurs, pour la petite anecdote, Niptech, c'est un podcast suisse à Lausanne, et Greg de Nakan, avec qui je fais le podcast, est un Suisse qui vit à Lausanne. Donc la boucle a été rebouclée. Donc on faisait déjà tout à distance. Et puis Benoît m'a dit, bah écoute, tu fais comme tu veux, mais nous sur Niptech, ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on fait des lives YouTube. Et puis après, ces lives, on récupère l'audio. Alors il faut aller sur un site, balancer l'adresse YouTube, récupérer le MP3. Et puis après, c'est ce MP3-là qu'on met sur SoundCloud. SoundCloud, on a branché le flux de SoundCloud sur un feed burner pour avoir un flux RSS. Et puis, c'est le flux RSS qui devient le flux du podcast. Donc ça, c'était sur la partie un petit peu flux, tu vois. Et au niveau de la partie matos, il m'a dit la première chose que tu peux faire, c'est... déjà essaye avec des écouteurs filaires type iPhone, fais un ou deux épisodes, puis si ça te branche, bah t'achètes un micro. Déjà à l'époque, je regardais le Blue Yeti qui m'avait coûté 150 balles, mais qui a toujours été fidèle au poste. Donc le Blue Yeti, c'est un micro qu'on branche en USB sur l'ordinateur, donc ce qui veut dire aussi avoir un ordinateur, avoir un micro qu'on branche en USB, avoir quelques petites connaissances pour bidouiller un peu, parce que bah il fallait enregistrer l'audio sur Audacity en plus de l'audio de YouTube, parce que déjà on s'amusait à essayer d'avoir la meilleure qualité possible. Donc moi et mes invités et mes co-hosts sur Nip Sport et après Place au Sport, et ben on avait tous un micro externe qu'on branchait sur l'ordinateur, on enregistrait les pistes sur Audacity, et après ben il y en avait un qui récupérait toutes les pistes et qui faisait le montage. Voilà.
Trop. Ça, c'est vraiment pour parler de l'antiquité. Aujourd'hui, on a plein de d'outils qui font le taf, notamment des agrégateurs de podcasts comme Encore, qui est gratuit et qui se gère de distribuer sur les différentes plateformes traditionnelles de podcasts, ou d'autres payants qui permettent de faire des trucs un peu plus poussés, peut-être des insertions dynamiques pour ceux qui font de la publicité. Pour ceux qui aimeraient en savoir plus, je pense que Raph, il a fait, il y a, je crois, un de ses premiers invités avec qui il a bien traité le sujet pour lancer son podcast. Ça doit être, je crois, ça doit être avec Barthélémy, ça doit être avec Barthes d'Extraterrien. Il y a une partie, je crois, vers la fin du podcast où il traite franchement les différentes étapes. On peut en faire complètement un document, on peut faire une transcription, et puis ça peut aider plein de personnes. Donc je recommande, si peut-être Raph il écoute cet extrait exactement, il pourra peut-être mettre ça en description de l'épisode.
Donc, et puis il y a un autre membre de la communauté Podcast Maker qui a fait un truc aussi, c'est Bertrand Soulier qui a créé un podcast qui s'appelle...
Ah, Bertrand Soulier, je connais sur... avant, la communauté Podcast Maker, moi je le connaissais plutôt sur YouTube, parce que il avait toujours des astuces un petit peu... farfelu, mais qui fonctionnait, quoi, pour enregistrer, par exemple, pour séparer les pistes sur iPhone, tu vois, il te met un truc comme ça, et puis ça te sort deux micros, et puis j'ai regardé plein de ses vidéos.
Bah, lui, il a créé un podcast qui s'appelle, ouvrez les guillemets, créer un podcast génial maintenant. Donc il a fait une vingtaine.
Il y a tous les mots-clés, quoi, trop haut.
C'est ça. Il a fait une vingtaine, une trentaine d'épisodes, et pour ceux qui veulent apprendre à créer un podcast, de la partie technique jusqu'à la distribution, promotion et autres, c'est un bon, c'est une bonne reco aussi. Voilà.
Yes. Excellent. Donc, je te propose qu'on aille maintenant sur le lancement de ces... on a encore du temps
ou ouais, bien sûr, vas-y.
Ok. Je te propose qu'on aille sur... on a déjà un petit peu rapidement briefé dans les vestiaires, sur comment, de quoi est-ce que c'est né l'idée, comment est-ce que tu as été inspiré par ça. aujourd'hui, c'est combien d'épisodes que tu as jusqu'ici? Je crois on doit être sur 16 épisodes. Et sur l'autre podcast que tu as, que sur lequel tu es co-host, tu as à peu près combien d'épisodes?
Alors, sur Vestiaire, j'en suis à 18. Et j'en ai encore j'en ai encore quelques-uns dans la besace. Et d'ailleurs, j'espère que quand nos auditeurs écouteront cet épisode, j'aurai enfin repris la diffusion, parce que ça fait 5 semaines que j'ai pas diffusé alors que je voulais le faire une fois par semaine. Donc pas bien, voilà. Pour ceux qui voient, je me gifle. sur Nakan, on diffuse un épisode toutes les deux semaines et on en est à 46. 46 parce que 46, début 2020 okay. On a eu des hors-séries, on a fait des hors-séries avec une diffusion donc toutes les semaines. En fait, une semaine sur deux, on avait notre épisode régulier, et l'autre semaine, c'était des hors-séries sur la préparation de Greg à l'Ironman de Zurich, qui malheureusement a été annulé pour raisons sanitaires.
Ouais. Voilà. Je sais que le podcast avant tout c'est une passion pour toi.
Ouais.
Mais on sait aussi que en parallèle de cette passion là, t'as des obligations, d'où les questions que j'ai posées précédemment sur comment est-ce que tu faisais et tout. Comment est-ce que tu vois l'évolution des choses pour toi par rapport à ces deux émissions, sachant qu'il y a des trucs en coulisses qui se préparent? Est-ce qu'il y a une idée, peut-être, je sais pas, de monétisation? Et si c'est le cas, comment est-ce que tu visualises? Est-ce que tu as un modèle sur lequel tu es plus à l'aise, sur lequel tu es en train de réfléchir, sur comment déployer? Est-ce que tu peux nous partager quelques
insights? Ouais. Alors sur Nakan, on s'est mis d'accord tout de suite avec Greg, c'est que si on devait monétiser le podcast, ce serait dans le respect des valeurs qu'on partage tous les deux, c'est-à-dire déjà le dire clairement à nos auditeurs et à nos auditrices. Donc ça passerait très certainement par du host read. Donc pour ceux qui connaissent pas le host read, c'est-à-dire c'est les animateurs, enfin le ou les animateurs qui lisent un message publicitaire du sponsor qui file de l'argent pour être présenté dans le podcast. Donc ça passerait.
Du coup, c'est vous qui enregistrez ce truc là selon votre propre temps, ou
ce serait nous qui enregistrerions ça? Mais ce qu'on a déjà fait, on a eu un invité qui est venu plusieurs fois dans notre podcast, qui est un préparateur physique et un médecin du sport, et qui travaille aussi, propose aussi des formations sur l'entraînement, sur l'amaigrissement, etc. C'est un médecin du sport nutritionniste canadien, pour être plus précis. Et au moment où il lançait sa nouvelle formation, il nous a demandé s'il pouvait faire de la pub sur notre podcast. Donc on l'a accepté très volontiers, parce qu'en plus c'est un invité qu'on adore et qui mâche pas ses mots et qui a une grande connaissance de la science de l'entraînement. Et ce qu'on a fait, c'est que c'est nous qui lui avons demandé de lire, enfin de nous faire un message de 20 secondes qu'on a mis en pré-roll, donc c'est-à-dire avant le début de l'épisode de notre podcast. Voilà, c'est comme ça qu'on a fait. On lui a demandé d'être très clair et très ouvert, c'est-à-dire que il se présentait et il disait que il sponsorisait le podcast sur 3 épisodes, et que ce sponsoring, c'était pour lui une façon de présenter son nouveau produit. Voilà.
Et techniquement, tu peux nous dire comment est-ce que tu le fais? C'est avec t'es hébergé sur quoi? ART19, c'est ça que tu utilises?
Non, moi je suis pas sur ART19. Sur Nakan, on héberge sur Encore.
Et Encore permet de faire dans un sexe des sensations dynamiques?
Non, nous on fait ça à la barbare en fait.
nous
on les met en dur, on les met en dur dans l'épisode.
Ah, ça veut dire le truc, il est
c'est pour, il est figé.
Toujours, quoi. Il est figé.
Si tu réécoutes les épisodes où on a fait cette campagne de pub, t'auras toujours le pré-roll. Voilà. Je sais qu'il y en a notamment avec ART19 qui peuvent gérer des campagnes. Donc tu dis de quelle période à quelle période, et puis ça diffuse toujours le message, mais pas après. Donc en gros, pour situer pour nos auditeurs, je sais pas si on fixe une campagne entre le 1er et le 30 septembre. Quel que soit l'épisode que un auditeur va écouter, que ce soit un épisode d'il y a un an et demi ou un épisode d'hier, ils auront entre le 1er et le 30 septembre le message publicitaire. Nous, on n'a pas voulu faire comme ça, déjà parce que Encore le permet pas, et ensuite parce que on a voulu être très clair avec nos auditeurs, comme je te dis. Donc c'est-à-dire qu'on s'est engagé avec notre sponsor à lui faire cette campagne de pub sur 3 épisodes, et c'était pas 40, c'était 3, et donc on voulait qu'il soit présent dans ces 3 épisodes-là et uniquement ces 3-là. Et en plus, ce que nous, on voulait, c'est qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêt entre notre invité, enfin notre sponsor et les éventuels invités. Et comme on a aussi des invités qui sont coachs, on a aussi des invités qui sont médecins du sport, on a aussi des invités qui sont préparateurs physiques, on voulait pas que son message apparaisse dans un épisode où il y a quelqu'un d'autre que lui sur le même secteur. Voilà. Donc, c'est l'option qu'on a choisie, c'est de mettre en dur dans l'épisode. Voilà.
Je pense que avec le rachat de Anchor par Spotify, qu'ils ont inséré justement cette fonctionnalité-là, mais qui n'est valide que aux États-Unis.
Ouais,
je crois avoir eu un truc comme ça, et en plus ils ont mis des interdictions là. N'utilisez pas de VPN.
Donc. Voilà, donc après, si on devait un peu plus monétiser notre podcast, je pense qu'on ferait comme tout le monde. On resterait sur le sponsoring pour pouvoir choisir quelle marque on veut représenter. Et puis surtout, il faudrait qu'on ait, je pense, un peu plus d'audience que ça. Là, actuellement, on tourne entre 1000 et 2000 écoutes par épisode. Donc, sachant qu'on diffuse un épisode toutes les deux semaines, sauf période de hors-série, mais ça c'est exceptionnel, ça fait un peu moins de 5000 écoutes par mois, ce qui est pas énorme pour pouvoir prétendre à du sponsoring.
Qui est déjà pas mal, quoi. Il faut bien commencer quelque part.
C'est ça. Ça, c'est sur Nakan. Sur Vestiaire, c'est une audience quand même beaucoup plus confidentielle. Je tourne à entre 150 et 200 écoutes par épisode. Donc, tu vois, on est bien en dessous de Nakan. Et puis, je suis complètement en dessous des radars pour ce qui est de la monétisation. Par contre, si je devais monétiser, là, sur Vestiaire, je suis tout seul. Donc, déjà, je choisis ce que je veux. Et puis, je pense que je passerai sur une plateforme type Art 19. Ou alors Acast pour une plateforme française ou Podcastique où on peut mettre des messages publicitaires sur lesquels on est plus ou moins maître de choisir les messages qui sont diffusés, mais en tout cas de ce que je comprends, on peut choisir à quel moment on veut que les messages passent. Est-ce que c'est au début, est-ce que c'est au milieu, est-ce que c'est à la fin de l'épisode, et puis on peut choisir un petit peu le secteur dans lequel on veut que les publicités apparaissent.
Est-ce que ce serait dans l'optique peut-être de compenser ce temps que tu alloues pour l'instant de façon bénévole, même si tu prends du plaisir, c'est un plaisir, ou alors il y a une idée un peu plus qui va peut-être au-delà, je sais pas, pourquoi pas complètement switcher et dire peut-être bye bye à Société Générale demain.
J'espère qu'il n'y a pas de gens de SG qui écoutent.
On est entre nous, on est juste à deux.
Voilà, c'est ça. Ça fait quelques années que je nourris un rêve. C'est que je crois vraiment beaucoup au podcast. Et depuis 2014, depuis que j'ai découvert ça, je crois vraiment à ce média-là. Et je crois que les chiffres actuels ne me feront pas mentir. Quand on voit l'entrain qu'il y a au niveau des podcasts de sport ces deux dernières années, enfin des podcasts de sport francophones ces deux dernières années, ça a juste explosé. J'ai fait un benchmark du marché des podcasteurs, enfin des podcasts sportifs francophones il y a un an et demi, et il y avait déjà plus de 600 podcasts qui existaient et qui étaient actifs
en français. Alors,
je te parle, francophones, donc France, Canada, Suisse, Belgique, etc. Une grosse majorité au Canada quand même. En même temps, la balado, ils ont connu ça il y a beaucoup plus de temps que nous.
Ouais, tu disais qu'il y avait plus de 600 indépendants qui podcasteurs dans l'écosystème du sport dans la francophonie, c'est ça?
C'est ça, dans la francophonie. Donc ce que je disais, c'est qu'il y en avait une grosse partie quand même au Canada. Bon, en même temps, ils ont découvert le balado beaucoup plus tôt que nous, les Européens.
Ouais.
Mais bon, je trouve que c'est juste énorme, un marché avec 600 producteurs de podcasts sportifs. Et ça, c'était il y a un an et demi. Depuis, j'en ai encore vu plein qui sont apparus.
Ouais, forcément.
Voilà. Donc
ouais, ça c'est incroyable tout ça.
Moi, je crois énormément à ce média-là. Alors, pourquoi? Je pense qu'on va y venir, mais pourquoi je crois à ce média-là? Parce que déjà, le podcast, en tout cas indé, ça rentre dans les oreilles des gens. Quand les gens écoutent la radio dans la voiture ou à la maison, c'est un peu un fond sonore, tu vois. Quand tu regardes un film, ça t'oblige à être focus sur le film et quand tu mets un Netflix en fond sonore, tu fais pas vraiment attention au truc. Alors que pour moi, le podcast, tu mets pas un podcast dans tes oreilles si c'est pas pour l'écouter. Alors, tu vois, déjà, je pense que c'est un média de passion. C'est un média que tu vas écouter parce que le podcasteur ou la podcastrice te parle de quelque chose que t'as envie d'entendre, déjà. Ensuite, je pense que de par ce fait-là, il y a un lien beaucoup plus important qui se crée entre le podcasteur et l'auditeur. C'est un lien que t'as pas forcément à la radio. Enfin, je connais peu de gens qui écoutent la radio, qui écoutent les infos, qui écoutent des émissions spécialisées, spécifiques, et puis qui après vont écrire à la chaîne de radio ou à la chaîne de télé pour dire ah bah tiens, c'est un message pour tel animateur, c'est un message pour PPDA ou c'est un message pour Jean-Pierre Pernaut là qui va quitter le journal de TF1. Et puis j'ai adoré ton intervention, j'ai adoré ce que t'as dit, j'ai adoré tes invités. Est-ce qu'on peut rentrer en contact, etc.
C'est tellement vrai ce que tu dis, parce que moi, je sais pas si t'étais là la dernière fois, le call qu'on a vu avec Carlos Diaz de Silicon Carnet. J'écoute beaucoup les épisodes, j'écoute religieusement les épisodes de Mathieu Stéphanie, Gilles et Y, et à un moment où il faisait des pubs sur le Google Chrome tout le temps. Je crois pendant au moins un mois et demi, peut-être 2 mois, et 3 ou 4 mois après, lorsque j'ai eu besoin d'acheter un ordinateur, ben dans ma tête j'avais que Google Chrome quoi, et j'ai acheté un Google Chrome, je te jure. Donc c'est tellement vrai ce que tu dis, cette intimité, c'est tellement profond à tel point que ben inconsciemment t'as l'impression que ben c'est quelqu'un de ta famille quoi.
C'est ça.
Pourtant, vous n'êtes jamais vu.
Et c'est pour
bon,
ça que. Pour
Mathieu, on s'est déjà rencontré. Hein, donc c'est...
Vénard, moi, je n'ai jamais réussi à le voir encore. On échange pas mal via.
Non, mais je l'ai fait en mode gangster. J'ai débarqué dans ses bureaux sur Paris. J'ai sonné en bas, là. J'ai dit, je suis là. Je viens pour rencontrer Mathieu Stéphanie. On s'est écrit déjà une fois sur LinkedIn. Et la secrétaire qui était ouf, elle dit, mais quoi, comment ça se fait pas de venir sonner comme ça, dites-lui que je suis là. Et ça a duré quelques minutes. Ensuite, ils ont ouvert la porte, je suis monté et puis je l'ai rencontré, en échangé. Ah, il m'a accordé à peu près 30 minutes, c'était vraiment cool. Et je me suis même assis, j'ai eu le temps de bosser quelques trucs à côté avant de rentrer, quoi. Donc ah, je l'ai génial. Fait vraiment en mode, ben, je m'en fous. Au pire, ils vont pas ouvrir la porte, quoi.
Bah, c'est vrai que si j'ai l'occasion d'aller à Paris, c'est ce que j'avais planifié aussi. C'était de la faire à la mode barbare, à la mode gangster. Après, quand je vais à Paris, en général, c'est minuté, donc j'ai pas forcément eu l'occasion de le faire. Mais ouais, comme je te disais, tu vois, je crois énormément aux médias podcast pour ces raisons-là, et je suis persuadé que les marques gagneraient énormément à faire beaucoup plus de podcasts, mais du podcast qui resterait indépendant. Donc un podcast qui serait drivé par un podcasteur indépendant et qui un petit peu coacherait, ferait du consulting auprès des marques pour qu'elles arrivent à diffuser leur message. Pas encore un autre spot publicitaire géré par des agences de pub qui te prennent des millions pour te créer un logo. Non, moi je crois au podcasteur indépendant qui va créer du podcast en marque blanche pour des grosses boîtes, pour des marques un peu plus jeunes, ou même pour de l'industrie qui veut se réinventer et qui veut avoir une image un peu plus jeunes quoi. Et donc
je vois très bien ce que tu veux dire, c'est pas pour taper sur les gros hein, mais c'est juste pour dire qu'en général il y a un biais, il y a une orientation qui parfois n'est même pas, et elle est même parfois inconsciente, ou peut-être un indépendant qui n'a pas forcément quelqu'un qui lui dit quoi faire, ben il aura un jugement qui est beaucoup plus neutre et qui donne les faits, qui analyse les faits, et qui ne veut pas juste pousser une partie par rapport à une autre partie quoi.
C'est ça. Et du coup, tu vois, croyant fermement à ça, je suis persuadé que un jour j'arriverai à créer un studio de podcast et à vendre ce type de prestation. Et d'ailleurs, c'est déjà un petit peu ce que je fais sur le podcast Dans les vestiaires. C'est-à-dire que moi, je veux donner la parole à ces grandes sportives, à ces grands sportifs, à ces aventuriers, à ces artistes. D'ailleurs, tu vois, j'ai fait un podcast, un épisode de Dans les vestiaires, c'est le 17, donc vestiaires.org/017 avec Ntoi, qui est un...
Ah, je l'ai vu aussi sur le podcast.
Bah, voilà.
Ntoi Kacha, donc... lui, c'est un démerdat, mais de ouf, débrouillard, ultra débrouillard. Qui organise des concerts, des trucs, avec rien.
C'est ça. Et bah, donc juste pour conceptualiser pour les auditeurs, et bah, Ntoi, c'est un musicien, auteur, compositeur, performeur, danseur qui fait un peu de sport. Et moi, je voulais l'avoir dans le podcast justement parce que je voulais savoir comment est-ce qu'il faisait pour se démerder, pour vivre, pour manger tous les jours. Il est très présent sur les réseaux sociaux, il fait aussi un podcast. Et donc, je fais pas que des sportifs. Bref, voilà, je ferme la parenthèse. Et, nice. Et quand. quand j'interviewe ces grands sportifs, ces grands aventuriers, ces artistes, déjà j'essaie de rester en contact avec eux parce que je trouve que c'est énormissime que des gens comme ça me consacrent du temps à moi pour parler d'eux, certes, mais surtout pour parler pour défendre le fait que les sportifs, les artistes, les aventuriers, c'est pas des gens qui roulent sur l'or, déjà. Et puis, une fois qu'on a gardé un petit peu le contact, en général, j'essaye d'imaginer une stratégie pour leur prochain défi ou pour parler d'eux dans le sport. Parce que souvent, les sportifs, ils se font connaître sur Instagram. C'est comme ça qu'ils vont aller voir des sponsors et leur dire, j'ai 10 000, 15 000, 20 000, 30 000 followers. Je suis sportif, mais surtout, je peux représenter ta marque et puis je peux vendre tes produits. Je simplifie au maximum, mais c'est comme ça qu'un sportif va se vendre auprès d'un sponsor potentiel. Et donc moi, ce que j'essaie de leur proposer, c'est de leur dire voilà, t'as un défi ou t'as un objectif, tu veux aller au JO, et ben écoute, si tu veux, moi je peux te proposer de te créer un podcast où on fait des micro-interviews de 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, une heure, à une fréquence définie, toutes les semaines, tous les 15 jours, tous les mois. Tu vas fédérer ta communauté et puis surtout, tu vas pouvoir peut-être aussi de temps en temps inviter des sponsors. Ça va leur permettre à eux de parler d'eux. Donc, tes sponsors vont pouvoir parler d'eux et montrer une bonne image d'eux avec un one-to-one, un face-to-face entre humains et parler à ta communauté de 10 000, 15 000, 20 000 personnes. Et ça, je pense que ça a plus de valeur qu'une image ou une série d'images ou une story postée sur Instagram ou sur Facebook ou sur LinkedIn ou sur Twitter ou sur TikTok. Et donc, c'est ce que
qui n'est même pas ciblé deux fois, quoi. C'est juste un produit, on s'en fout, ça intéresse l'audience ou pas, on balance juste. Or qu'en général, le sponsor qui vient vers toi pour parler à ta communauté, c'est généralement pour proposer des services ou des produits qui sont cohérents. Du moins ce qui rentre dans ta philosophie et ton état d'esprit et qui ne trahit pas quelque part ta personne. Et en plus, tu gagnes beaucoup plus décemment ta vie, quoi. Je veux dire, c'est pas les mêmes pricing aussi, quoi.
C'est ça. Et donc voilà, tu vois, c'est ce que j'essaye de faire. Alors pour l'instant, j'ai pas réussi à convertir de sportif, mais voilà, j'ai parlé à 20, 25 grands noms du sport, en tout cas à mon sens. Peut-être qu'un jour j'y arriverai. Et puis, si j'arrive à en faire un ou deux ou trois, et puis que j'arrive à avoir un peu plus de visibilité pour mettre du beurre dans les épinards ou pour passer à mi-temps chez SG ou même switcher, ce serait une belle réussite, je pense. Donc voilà, tu sais tout.
On a hâte de suivre ça toutes les façon. Peut-être avant de terminer, est-ce que tu aurais peut-être un gros fail à nous raconter ou pas forcément un truc un petit peu chelou ou que tu aurais vécu lors d'un enregistrement d'épisode de podcast?
Ouais, écoute, je t'en ai déjà raconté un en off, mais je crois qu'il est beau celui-là, donc je vais te le refaire. En fait, j'en ai deux. Il y en a un qui date de 2015, justement quand on faisait Nip Sport. Dans la famille Nip Sport, il y avait aussi un autre podcast qui s'appelle Nip Edu. C'est des profs, donc il y a un prof des écoles, un prof d'histoire géo et un prof de sport qu'on a interviewé dans Nip Sport, donc dans notre podcast, parce que ils parlent tous un petit peu de sport et puis surtout on voulait un peu faire du off-cast avant l'heure, tu vois, on voulait savoir qui était derrière le micro. Et on a passé un moment mais exceptionnel avec ces deux mecs. On a rigolé comme des fous ils nous ont parlé d'eux, ils nous ont parlé de leur podcast, ils nous ont parlé de la genèse de leur podcast, ils nous ont parlé de leur pratique du sport. Alors il y en avait un qui était super sportif et puis l'autre qui courait un petit peu de temps en temps et du coup c'est parti en blague, c'était vraiment génial. Au moment de terminer le podcast, on a fait une fausse manip, on a tout perdu.
Non.
On a tout perdu. Le live sur YouTube qui a jamais été publié, qu'on ne pouvait pas retrouver. Donc, forcément, les pistes audio. Pourtant, on était 6 podcasteurs à distance, mais.
La honte.
On a tous merdé. Il n'y en avait pas un qui avait une piste correcte. Ça, c'était le premier fail. Et puis, le deuxième, c'était il n'y a pas très longtemps. J'ai interviewé Frédéric Bellobre, donc grand triathlète de la grande époque du triathlon. Le mec a quand même fait 2 ou 3 JO en triathlon. Enfin, voilà. Une belle grosse star. Et un mec.
La bouteille.
Ouvert, humain, génial, prêt à. On a discuté ensemble. Et j'avais l'impression qu'on s'était déjà vu, qu'on se connaissait depuis 10 ans, tu vois. Vraiment un gars top. Et puis, je sais pas, j'avais un problème avec mon enregistrement sur Zoom. Donc, je lui ai demandé d'enregistrer aussi de son côté, ce qu'il a fait. Et on a raccroché. J'ai pas eu le temps de checker les pistes le soir même parce que la famille m'attendait. Mais le lendemain, j'ai pris l'enregistreur, j'ai mis ma carte SD dans l'ordinateur, j'ai cherché la piste. J'avais bien ma piste, mais impossible de trouver l'enregistrement de Zoom. Donc voilà, deux fails, deux super podcasts où j'ai pris un pied énorme, enfin comme tous les autres d'ailleurs, mais que bah, je crois que je pourrais jamais plier de ma vie.
Je sais de quoi tu parles, hein. J'ai déjà vécu pareil aussi, et je peux te dire que ça, pour ceux qui nous écoutent, ça fait très 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 mal, quoi. Même si tu as une deuxième chance, une deuxième proposition d'enregistrer, ça fait super mal.
Ça
parce que
tu as
l'impression que ça ne sera
la
pas
même
la même chose, quoi. Ce truc,
ça
c'était
pas la même
réel.
Saveur.
C'était... Ouais. Ouais. Merci beaucoup, Hermano, pour tout ce partage. Et dis-moi, est-ce qu'il y a un truc que j'aurais oublié de te demander?
Non. On a parlé de moi, de mes podcasts, du sport. On a parlé.
Je trouve qu'on n'a pas assez parlé du sport connecté. Est-ce qu'on peut tu peux nous briefer rapidement un truc là-dessus? C'est ce que tu traites dans ton autre podcast, Nakan. Est-ce que tu peux nous briefer rapidement un truc là avant qu'on
arrive? Ouais, bah écoute, la caution là-dessus, c'est plutôt Greg, mon co-host, qui lui fait plein de tests de produits. Donc il connaît tous les tests, enfin tous les produits du marché en termes de sport connecté. Alors ça tourne surtout autour des montres, autour des capteurs de puissance, des capteurs de vitesse, des compteurs sur vélo, etc. Voilà, ce que je peux te dire, c'est que dans notre podcast, on essaye d'aborder de la façon la plus sereine et la plus honnête possible tous ces différents joujoux que lui peut tester, mais on fait pas un podcast de test de produits, fait plutôt un podcast où on va aborder des sujets du genre quelle montre de sport choisir quand on va commencer à courir ou faire du vélo ou faire du triathlon, quel capteur de puissance on va pouvoir choisir quand on veut avoir des données correctes en courant, ou même au-delà de ça, est-ce que courir avec un capteur de puissance, c'est aussi efficace que de courir avec une montre connectée? Voilà, on aborde ce type de sujet, et c'est le type de sujet qui nous font vibrer, parce que même s'il y a 20 ans, 30 ans, on faisait du sport à la sensation avec une vieille paire de baskets et un short de tennis, maintenant, on peut toujours le faire. Mais c'est vrai qu'on a des aides juste exceptionnelles avec ces petits gadgets, ces petites montres qu'on met sur notre poignet, ou un petit capteur qu'on met sur le thorax qui va capter les mouvements cardiaques, enfin les battements cardiaques, et même plein d'autres choses. D'un côté, pourquoi s'en priver, quoi? Et si on veut pas s'en priver, le meilleur moyen, c'est d'aller sur podcast.nakan.ch, de retrouver tous les liens pour écouter notre podcast sur les différentes plateformes, et puis de vous faire plaisir et de réagir avec nous.
Le podcast des sportifs connectés, disponible sur toutes les bonnes plateformes de podcast traditionnelles. Bien sûr, sur le site, vous avez toutes les informations que Hermano vient d'expliquer. Podcast.nakan.ch. Nakan, c'est N-A-K-A-N. Toutes les façons, il y aura tout en description.
C'est ça.
Où le meilleur endroit pour en savoir plus sur toi, sur ce que tu fais, Hermano?
Écoute, je te l'ai dit, hein, je suis un gros introverti très timide, mais j'essaie quand même de parler un peu de moi. Alors le plus facile, c'est Hermano, Hermano.fr. Voilà, c'est un petit site où vous retrouverez tous les liens vers mes podcasts, vers mes réseaux sociaux, et puis de temps en temps j'essaie d'aller mettre des articles, mais je crois que le dernier article que j'ai posté, il date de Movember l'année dernière, donc voilà, c'est pas tout récent.
Oh. Yes, on t'écrit vite fait là sur LinkedIn, ça passe?
Ouais, LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram, c'est tout. Je suis pas sur TikTok, et puis des fois je mets quelques heures pour répondre, mais j'aime tellement échanger avec tous les gens qui veulent rentrer en contact avec moi que vous inquiétez pas, je vous répondrai, c'est un gros plaisir.
Écoute Hermano, moi j'ai pris un réel plaisir à discuter avec toi. C'est pas pour décourager les autres, mais moi clairement mon préféré c'est dans les vestiaires, parce que j'aime plus les interviews, j'aime plus écouter les histoires. Je vais continuer d'écouter les épisodes, j'ai déjà commencé, et puis bien sûr je laisse la liberté à tout le monde d'aller découvrir aussi l'autre podcast. Je te remercie pour ton temps, pour ta transparence et pour ce bon moment, c'était un vrai kiff.
Merci Guy Bertel, c'était cool, et puis merci à toi de m'avoir invité.
Yes, à très vite,
à plus tard, ciao ciao, ciao.